à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 26 septembre 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Premier discours du président congolais Félix Tshisekedi à la tribune de l'ONU ce jeudi. De nombreux morts dans l'effondrement d'une mine d'or illégale au Tchad. Nomination de la commission électorale ivoirienne, le PDCI ne figure pas dans la liste des 15 membres. États-Unis, audition à la Chambre des représentants du directeur intérimaire du renseignement, Joseph McGuire, sur l'affaire avec l'Ukraine. Réaction dans le monde à la mort de l'ancien président français Jacques Chirac, qui était contre la guerre en Irak. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au troisième jour du débat général à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a demandé une force onusienne moins pléthorique et plus efficace dans son pays. Il a aussi parlé du défi que pose l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Voici un extrait de son premier discours à la tribune onusienne.
Je ne peux m'empêcher de regretter que l'histoire de mon pays soit si douloureusement lié à l'ONU qui, 24 années durant, sur nos 59 années d'indépendance, y a déployé une mission de paix. Pourquoi, malgré cette longue présence, la plupart des espoirs de paix et de développement ont été déçus? Comme si les conflits et l'instabilité ne suffisaient pas, ces contrées de l'Est de la République démocratique du Congo sont affectés depuis une année par une épidémie de la maladie à virus Ebola. Même si beaucoup a été fait, l'épidémie n'est pas encore éradiquée. La stratégie sera renforcée par l'introduction de 5 nouveaux médicaments approuvés, en plus du vaccin contre la maladie à virus Ebola, qui permettront de se débarrasser complètement de ce fléau.
C'était un extrait du discours du président congolais Félix Tshisekedi devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan devrait également se prononcer ce jeudi, de même que les présidents de la Somalie, de la Sierra Leone et du Malawi. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a rendu public la composition de la commission électorale. La nouvelle équipe de 15 membres est chargée d'organiser la présidentielle de 2020. Éric Manirakiza.
Cette commission est composée d'un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition, plus un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Les 3 membres de l'opposition sont Henriette Lajoux, ancienne ministre de Laurent Gbagbo et candidate à la présidentielle de 2015, Alain Dogou, ancien ministre de Laurent Gbagbo, et Dodé Yapi Yapo, ancien maire de Yakassé à Tobrou, situé à 100 km d'Abidjan, considéré comme un proche de Gbagbo. Aucun membre du principal parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, ne figure dans la nouvelle CEI. La société civile et l'opposition qui réclamaient une réforme de la CEI ont critiqué la nouvelle organisation qu'ils estiment similaire à la précédente.
En Guinée-Bissau, le président sortant et 18 autres prétendants, dont une femme, se sont enregistrés comme candidats à la présidentielle prévue le 24 novembre. Mais une grève des magistrats sème le doute sur le calendrier. José Mario Vaz, président depuis 2014, s'est inscrit en qualité d'indépendant, de même que la sociologue Nancy Schwartz. La Cour suprême, qui dispose de 21 jours pour se prononcer sur les candidatures, devait débuter aujourd'hui. L'effondrement d'un immeuble en construction à Bo, en Sierra Leone, a fait au moins une dizaine de blessés graves, mais le bilan risque de s'alourdir selon les secours. Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver les personnes coincées sous les décombres. Près de 84 personnes, dont des ouvriers et des vendeuses de rue, se trouvant sur les lieux lorsque la construction de 3 étages s'est effondrée hier. Dans le nord du Tchad, plusieurs personnes sont mortes mardi dans l'effondrement d'une mine d'or illégale près de la Libye. L'accident s'est produit aux environs de Koury Bougoudi dans la province du Tibesti, soumise à l'état d'urgence. Le ministre tchadien de la Défense et de la Sécurité, Mahamat Abalissala, a dit qu'il y avait probablement beaucoup de morts, sans toutefois avancer de chiffres. Des militaires ont été dépêchés sur place, a-t-il précisé. Le Soudan a fermé ses frontières avec la Libye et la Centrafrique pour des raisons de sécurité. Le Conseil souverain a annoncé la mesure après une réunion à Niala, capitale de l'État du Darfour. Selon la presse locale, de nombreux rebelles du Darfour sont passés ces dernières années en Libye pour renforcer leurs capacités militaires, certains même intégrant les forces de l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar. L'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, décédé le 6 septembre, sera finalement enterré dans son village et non au monument des héros de la libération à Harare, a annoncé le gouvernement. La famille a exprimé son désir d'organiser son enterrement à Zvimba, dans le nord, a déclaré le porte-parole du gouvernement Nick Mangwana dans un communiqué promettant de coopérer à cette décision.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Congrès américain a rendu public la lettre d'un lanceur d'alerte sur le contenu d'un appel entre le président Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky le 25 juillet dernier. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Interrogé au Congrès, Joseph Magoye, directeur par intérim du renseignement national, a déclaré ne pas connaître l'identité du lanceur d'alerte. Ce dernier dit avoir été informé par des responsables du gouvernement que le président sollicitait l'ingérence d'un pays étranger dans l'élection de 2020. Selon lui, Donald Trump a demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle, et son fils Hunter. Il fait aussi cas d'une rencontre à ce sujet à Madrid début août entre Andriy Yermak, conseiller du président ukrainien, et Rudy Giuliani, avocat de M. Trump, et Bill Barr, ministre de la Justice. Le lanceur d'alerte explique que la relation entre les deux présidents dépendrait de la volonté de M. Zelensky de jouer le jeu. Dans un tweet, Donald Trump a de nouveau dénoncé une chasse aux sorcières. La chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a annoncé mardi le lancement d'une enquête parlementaire en vue de destituer le président.
L'Iran a lancé le processus d'enrichissement d'uranium, nouvelle étape d'une réduction des engagements dans le cadre de l'accord de 2015 sur le nucléaire, a indiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique. Selon un rapport, ces centrifugeuses avancées mises en marche sur le site de Natanz sont en train de procéder ou ont été préparées pour procéder à l'enrichissement d'uranium. Les États-Unis ont la confirmation que le régime syrien a recouru à des armes chimiques sous forme de chlore en mai, a affirmé le secrétaire d'État Mike Pompeo, annonçant que Washington allait réagir. Cette attaque ne restera pas sans réponse, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Les États-Unis avaient déjà fait état en mai d'indications selon lesquelles le régime de Bachar al-Assad aurait mené une nouvelle attaque chimique en Syrie. La France est en deuil. L'ancien président Jacques Chirac est décédé à l'âge de 86 ans. Sur le continent, beaucoup l'appelaient l'Africain. Un homme qui aura marqué la politique française. John Lyndon.
Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens, selon sa famille. À 86 ans, il laisse ses empreintes sur la scène politique française. Fils d'un chef d'entreprise à Paris, Chirac a commencé sa carrière politique à la fin des années 50. En 1995, il remporte la présidence française après sa troisième tentative, mettant ainsi fin à 14 ans de règne socialiste. Au cours de ses 12 années à la tête de l'État, la France est entrée dans la monnaie unique européenne et a aboli le service militaire obligatoire. Sa réputation a survécu à une condamnation pour utilisation abusive de fonds publics en décembre 2012. La disparition de Jacques Chirac a fait réagir toute la classe politique en France. Emmanuel Macron, François Hollande et bien d'autres ont exprimé leur profonde tristesse. Surnommé l'Africain, il a eu des relations avec le continent pendant plus de 40 ans. Jacques Chirac était un grand ami du Gabon, a tweeté le président Ali Bongo. Pour Okmah Christian Kaboré, le président burkinabé, L'Afrique perd un ami. Jacques Chirac a suscité la fierté nationale avec son opposition à l'invasion de l'Irak en 2003. Il sera aussi le premier président français à reconnaître le rôle du régime de Vichy dans l'Holocauste et à présenter ses excuses au peuple juif.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou entame aujourd'hui la difficile mission de former un gouvernement de coalition après des élections qui ont vu émerger deux blocs quasiment irréconciliables. Monsieur Netanyahou s'est vu attribuer hier soir par le président Reuven Rivlin le mandat de former le prochain gouvernement après des élections législatives n'ayant pas réussi à le départager clairement de son rival Benny Gantz. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, c'est maintenant dans la Minute Éco avec Nani Talani.
Le budget 2020 du Bénin s'élève à 3,3 milliards de dollars. Le nouveau projet de loi des finances est en hausse de 5,8% par rapport à celui de l'année en cours, dont le montant est de 3,1 milliards de dollars. Il prévoit également un déficit budgétaire à 1,8% du PIB, mais constitue une amélioration de 0,4% par rapport au niveau attendu à la fin du mois de décembre 2019. Pour l'exercice 2020, le Bénin s'attend à une croissance à 7,6% de son produit intérieur brut. Le Togo lance un appel pour la présélection des potentiels repreneurs des deux dernières banques qu'il contrôle et qu'il entend privatiser. Le gouvernement veut se désengager du secteur bancaire. Concrètement, le gouvernement togolais recherche des investisseurs stratégiques disposant de solides compétences bancaires et financières à qui céder ses participations et ou ouvrir la majorité du capital de ces deux institutions. Les candidatures sont attendues jusqu'au 22 novembre de cette année.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'Égypte demande des comptes à la FIFA.
Oui, la Fédération égyptienne de football se plaint de la non-prise en compte des votes de son sélectionneur et de son capitaine pour la nomination du meilleur joueur de l'année. Les résultats pour l'élection du FIFA Best Player, remporté par Lionel Messi, ont été publiés. Le vote du sélectionneur Chaouki Garib et celui du capitaine Ahmed El Mohamadi ne sont pas mentionnés dans la publication des votes. Tous les deux ont placé Mohamed Salah en tête, assure la fédération. Le seul vote venant de l'Égypte qui a été publié vient du journaliste Annie Daniel, qui a préféré le Sénégalais Sadio Mané, équipier de Salah à Liverpool, ce dernier n'étant que le troisième choix du journaliste, derrière Cristiano Ronaldo.
Aubameyang continue son aventure avec les Panthères.
Pierre-Emerick me l'a répété, il sera là, l'équipe nationale peut compter sur lui, a déclaré Patrice Neveu, son nouveau sélectionneur au magazine France Football. Après quelques soubresauts avec les dirigeants du football gabonais par rapport à l'environnement autour de la sélection, Aubameyang a été plusieurs fois absent de la sélection lors des éliminatoires de la CAN 2019. Le Gabon ne s'est pas qualifié pour la compétition et l'attaquant d'Arsenal avait émis des doutes sur son avenir avec les Panthères. Arrivé à la tête des Panthères en août dernier pour un bail de 4 ans, Patrice Neveu a rencontré son capitaine. À l'issue de cette discussion, le joueur de 30 ans a réitéré son envie d'arborer le maillot du Gabon.
Le Los Angeles Galaxy d'Ibra est assuré de disputer les playoffs.
Un nouveau but du Suédois plus un autre de l'Argentin Christian Pavon ont donné la victoire 2-1 au Los Angeles Galaxy sur le terrain du Real Salt Lake, avec en prime l'assurance de disputer les playoffs du championnat américain. Zlatan Ibrahimovic, ancien joueur de Manchester United et du Paris Saint-Germain, a signé sa 28e réalisation de la saison à 2 unités de Carlos Vela du Los Angeles FC, meilleur buteur de la MLS. Grâce à ce succès, Galaxy s'empare de la 3e place de la conférence Ouest avec 51 points et retrouvera les playoffs pour la première fois depuis 2016.
Neymar et le Barça se retrouvent en justice.
La star brésilienne du Paris Saint-Germain et son ancien club ont rendez-vous demain en Espagne sur le terrain judiciaire. L'affaire porte sur la prime dont le montant exact n'a jamais été publié, promise à Neymar en 2016 quand il s'était engagé à prolonger son contrat jusqu'en 2021. Un an après avoir signé cet accord, le Brésilien est parti au Paris Saint-Germain et le club catalan a refusé de lui payer les 26 millions d'euros restants de la prime. Le Barça estime en effet qu'en quittant le club, Neymar a rompu son contrat. Les avocats du joueur ont saisi le tribunal pour réclamer le paiement intégral de la prime.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez bien Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En France, l'ancien président Jacques Chirac est décédé à l'âge de 86 ans. Président de 1995 à 2007, il avait marqué les esprits en s'opposant en 2003 à la guerre en Irak voulue par les États-Unis. Il aimait particulièrement le continent africain et il a eu des relations privilégiées avec nombre de présidents. Pour revenir sur les rapports complexes et parfois controversés de Jacques Chirac avec l'Afrique, Claire Morin-Gibourg a joint le professeur d'histoire africaine à l'Université Columbia de New York, Mamoudou Diouf.
On l'appelait Chirac l'Africain, je pense, pour deux raisons. La première raison, c'est ses amitiés africaines. C'est-à-dire Chirac avait beaucoup d'amis en Afrique et de vrais amis, je pense. Et certains ont dit, par exemple, qu'il avait deux grands amis au Sénégal, dont l'ancien maire de Dakar. Il avait aussi des rapports assez solides avec l'ancien président du Mali, ATT. Et je pense à cause de l'intérêt qu'il avait développé autour des arts africains, il avait, malgré la réputation qu'on lui a faite, une connaissance assez fine des arts et des cultures africaines. Et ça, je pense que c'est l'influence de Georges Pompidou et de Léopold Sédar Senghor qui étaient deux de ses mentors. Donc, il y a à la fois des amitiés personnelles, un environnement intellectuel et politique qui faisait que Chirac pouvait être africain. Et cet environnement politique, c'est parce que Chirac était un gaulliste. Et pour les gaullistes, la France sans l'Afrique faisait de la France une puissance mineure. Donc l'Afrique était essentielle à la présence de la France dans le monde.
Il ne faut pas cacher que le président Chirac a aussi aidé un certain nombre d'hommes forts, même un certain nombre de dictateurs sur le continent.
Ben oui, mais c'est ça, c'est la continuité de la politique africaine de la France. Je veux dire, il n'invente rien. C'est ça ce qu'on pourrait appeler l'aspect, disons, très très négatif de la politique française. Il a continué la politique africaine de la France, c'est-à-dire une politique qui faisait des intérêts français les facteurs dominants dans le rapport à l'Afrique.
A-t-il fait certaines erreurs en soutenant notamment que ce soit Mobutu au Zaïre d'alors ou le père Yadema au Togo?
Non, parce que c'était ça l'intérêt de la France. C'est pour ça qu'on disait que, en fait, c'est la chasse gardée de la France, le carré français en Afrique, reposait sur le soutien des dictateurs. La France n'était pas, si vous voulez, dans une dynamique qui était la dynamique de la démocratisation. Le débat sur le franc CFA retourne à cette question que les intérêts français en Afrique sont des intérêts qui, en général, ne concourent pas à la démocratisation. Donc Chirac n'a été que le continuateur d'une politique qui se continue encore aujourd'hui dans une certaine mesure.
Mamadou Diouf est professeur d'études africaines à l'Université Columbia de New York.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. La 74e Assemblée générale annuelle de l'ONU se tient cette semaine à New York. Les chefs d'État vont aborder les grands sujets du moment, l'environnement, le développement durable, la réduction de la pauvreté et les migrations. Avec le climat, l'insécurité dans le Sahel, la crise libyenne entre autres, l'Afrique sera de nouveau au centre des débats. Le bloc africain réussira-t-il à faire de ces dossiers une priorité? Où en est-on avec la réforme de l'ONU? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
La fermeture des frontières nigérianes a des effets néfastes sur l'économie béninoise. Elle entraîne notamment l'augmentation du prix de l'essence et de la contrebande, ainsi que des difficultés pour les producteurs qui peinent à écouler leurs produits agricoles. Sur cette question, voici un reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Les producteurs et les commerçants appellent le gouvernement au secours depuis la fermeture du poste frontalier de Sémécraké. Les producteurs agricoles qui se retrouvent avec d'énormes quantités de récoltes sans un marché d'écoulement adéquat. Quelques-uns pensent qu'il ne faut pas baisser les bras à attendre que le Nigeria rouvre ses frontières.
Dans le commerce, il faut qu'on puisse trouver des marchés qui, en dehors du Nigeria, peuvent absorber nos produits.
Il faut ouvrir les marchés sahéliens, les marchés arabo-musulmans, c'est-à-dire les marchés maghrébins, et il faut ouvrir aussi les marchés européens et asiatiques. Nous avons déjà les produits sur les bras, ce n'est pas la peine de nous lamenter. Qu'est-ce que nous allons faire pour que nous écoulions ces produits-là? Je pense qu'aujourd'hui, tout de suite, il faut qu'on se fie à des transformateurs. Nous allons essayer de voir les transformateurs.
D'autres pensent qu'avant de miroiter des marchés importants, il est nécessaire d'aller vers toutes les possibilités sur le plan national. Serge Sessou est producteur de maïs.
Comme porte de sortie, les sociétés de brasserie sont une solution. Négocier avec eux pour qu'ils précisent dans les 3 mois à venir quel stock ils peuvent enlever de nos bras. L'abattoir de Cotonou, combien de têtes de petits ruminants et de gros bétail ils peuvent enlever dans les 3 mois à venir.
Une équipe gouvernementale sillonne les champs à la rencontre des producteurs en vue de les écouter et leur faire part des dispositions prises par le gouvernement pour essayer de contenir la situation. Shadia Halima Tou Assouman est le ministre de l'Industrie et du Commerce.
Les marchés que nous prospectons ne sont pas aussi proches. Ils ne sont pas à moins de 100 km comme le Nigeria. Donc effectivement, nous devons travailler avec les producteurs pour pouvoir améliorer la qualité de ces ananas pour qu'ils puissent tenir ne serait-ce que le voyage.
Même si la situation paraît difficile pour beaucoup, les économistes pensent qu'elle porte en elle des avantages et des inconvénients pour une économie fiscale comme celle du Bénin. Ernest Sagbou est économiste.
Si cette situation perdure, il n'y a rien à faire, l'économie va s'adapter. Les gens vont se reconvertir dans d'autres activités. Donc l'économie béninoise va connaître une adaptation, une restructuration et nous allons sûrement renforcer notre capacité à faire face à d'autres chocs dans l'avenir. À long terme, c'est profitable pour les communes béninoises, mais à court terme, nous allons souffrir, mais on n'y peut rien.
Récemment, les rois du Bénin, dans une déclaration, ont annoncé que des propositions ont été faites pour la réouverture des frontières. Ils appellent à cet effet le chef de l'État à faire la part des choses et à répondre favorablement aux attentes du président nigérian pour le maintien des relations fraternelles entre les deux pays. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Jusqu'au 27 septembre, la ville de Lomé vibre au rythme de la semaine de la diplomatie climatique. Une manifestation qui présente les actions que le Togo mène en matière de lutte contre le changement climatique et sensibilise la population, notamment les jeunes, sur les dangers de la pollution environnementale, mais aussi l'utilisation anarchique des ressources naturelles. Notre correspondante Kaye Lawson est au cœur de l'événement dans la capitale. Voici son reportage.
La jeunesse et sa participation à l'action pour le climat, tel est le thème 2019 de la semaine de la diplomatie climatique au Togo. Le pays compte sur sa jeunesse pour insuffler du dynamisme à la lutte contre le changement climatique. L'ONG Sciences et Technologies Africaines pour un développement durable, STAD, mise sur les élèves. Rebecca Lelinda, 15 ans, élève en classe de 3e, est père éducatrice.
Quand nous voyons les gens, ils jettent les choses, pour nous, on doit les sensibiliser, plus savoir que vraiment les déchets ont vraiment de la valeur et puis protéger leur environnement pour les descendants futurs.
Le combat du Togo contre le changement climatique est implémenté par le biais du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC. Parmi ces projets, on peut citer celui de la réhabilitation des forêts communautaires. Claude Noutoudien, technicien de mise en œuvre du dit projet.
Ce projet se focalise sur l'utilisation des ressources. Nos communautés sont à 100% agriculteurs. Donc il faut quand même leur donner les moyens pour pouvoir utiliser durablement les ressources qu'ils ont à leur disposition. Le changement climatique, les causes sont multiples. Et l'une des causes phares, c'est la destruction du couvert végétal.
Les arbres abattus sont utilisés le plus souvent en charbon de bois ou en bois de chauffe. L'association Action Jeune Togo à développer des fours et foyers améliorés. Gustave Souragnan, directeur exécutif de cette association.
Ce que nous recherchons, c'est l'efficacité dans l'utilisation de la biomasse. Les fours et les foyers améliorés réduisent considérablement l'utilisation de la biomasse. Par exemple, les fours, ça réduit jusqu'à 26% de la consommation en termes de charbon de bois. Donc c'est ça notre objectif, réduire l'utilisation du bois et du charbon de bois.
La lutte contre le changement climatique a pour finalité le développement durable et l'amélioration des conditions de vie des populations, soutient Afelou Baré-Ramna. Il est le coordonnateur du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique.
En termes de développement durable, on ne fait plus de la foresterie pour la foresterie. On ne lutte plus contre les changements climatiques juste pour faire buzz. Mais tout ce que nous faisons doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos communautés.
Cette semaine de la diplomatie climatique a été marquée, entre autres, par une simulation des négociations climatiques par les jeunes et des conférences publiques sur la gestion des déchets au Togo et sur l'agroécologie. Kay Nelson, Lomé, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique. Poursuite de cette escale en Afrique pour la protection de l'environnement, cette fois-ci en Ouganda, où la jeune artiste environnementaliste Fess Aweko, qui se définit elle-même comme une ramasseuse de déchets, transforme notamment des sacs plastiques en sacs à dos pour un usage quotidien. Partons à sa rencontre à travers le reportage d'Alima Atoumani depuis la ville de Mpigi, interprété par Lionel Gaïma.
Faith Aweko n'a aucun problème à ramasser les ordures. Elle était obligée de le faire tout le temps lorsqu'elle était inondée par l'eau de pluie et les ordures de sa maison, située dans un bidonville près de Kampala. Aujourd'hui, elle travaille avec des femmes pour collecter des sacs en plastique dans le district de Mpigi, dans le sud de l'Ouganda. Ces sacs sont ensuite transformés en des sacs à dos résistants, imperméables et magnifiques. Aweko et ses collègues du projet Reform Africa voulaient faire quelque chose avec les milliers de sacs en plastique dans les rues de plusieurs villes ougandaises. Faith Aweko, fondatrice du projet Reform Africa.
They are collecting plastic bottles.
Elle ramasse les bouteilles en plastique, mais aussi les sacs de polythène qui sont les plus dangereux pour l'environnement. Et vous les trouverez partout. Certains les brûlent, d'autres les jettent dans leur jardin, ce qui n'aide pas non plus pour avoir une bonne production agricole.
En Ouganda, le sac de polythène le plus populaire est celui de 30 microns. De recherches ont montré qu'il faudra 1000 ans pour qu'un sac se décompose. Aweko a eu l'idée de compresser ses sacs ramassés à l'aide d'un fer à repasser, puis coudre le tissu pour fabriquer un sac à dos. Naluyima Chamim, cofondatrice du projet Reform Africa.
We earn this, we have to compile 15 plastic bags of these ones to come up with a strong backpack.
Nous les repassons. Nous compressons 15 sacs en plastique pour en faire un solide sac à dos. Nous avons des modèles et nos clients veulent avoir des marques dessus.
Rachel Mema, une réfugiée venue de la République démocratique du Congo, travaille avec le projet Reform Africa. Elle vivait dans un camp de réfugiés où il y avait beaucoup de déchets plastiques qui servaient de nid aux moustiques qui propageaient des maladies.
Ces solutions ne concernent pas seulement les citadins, mais aussi les personnes qui ont vraiment besoin d'avoir quelque chose qui respecte l'environnement. C'est pour protéger notre santé, car nous souffrons tous avec le plastique.
Alors que les dirigeants du monde sont réunis à New York pour parler du changement climatique, Chamim et les membres du projet leur demandent de ne pas regarder seulement les revenus générés par les sacs en plastique, mais d'être plus conscients de l'urgence climatique et d'agir dès maintenant.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous à l'écoute de VOA Afrique pour la suite des programmes, notamment avec Henri Francisque pour un rappel des grands titres de l'actualité dans le monde.
VOA Afrique, les infos.